Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, nous retrouvons Bernard Michon, maître de conférences en histoire à l'Université de Nantes et membre du CRHIA, et Éric Saugera, historien spécialiste de la traite des Noirs, avec qui nous allons poursuivre notre discussion sur Bordeaux et la traite des Noirs. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Parmi les publications de notre invité, je signale à nos auditeurs deux ouvrages. Le premier, intitulé « La dernière traite, fragment d'histoire en hommage à Serge Daget », que notre invité d'aujourd'hui, Éric Saugera, a coordonné avec Hubert Gerbeau. Cet ouvrage a été publié par la Société française d'histoire d'outre-mer. Et le deuxième ouvrage, qui va, je dirais, occuper notre discussion d'aujourd'hui, s'intitule « Bordeaux, port négrier, 17e-19e siècle », publié chez Cartala à Paris, ouvrage qui a connu de nombreuses rééditions.
Merci Bernard. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on s'intéresse au port de Bordeaux.
Alors Éric Saugera, les travaux de l'historien Paul Butel ont bien montré comment le port de la Gironde a connu une croissance commerciale spectaculaire, notamment à partir des années 1730, pour se hisser au premier rang des places portuaires du Royaume de France. Qu'en est-il s'agissant de la traite des Noirs ?
Pour la traite des Noirs, les Bordelais ont été beaucoup plus mesurés, à tel point que, à l'époque de Louis XV, la royauté essayait de stimuler le port de Bordeaux en disant aux Bordelais, écoutez, regardez un petit peu les Nantais, ce qu'ils font, il faudrait tâcher à les imiter. Et après la guerre de Sept Ans, enfin, le port de Bordeaux s'est mis, je dis enfin, c'est pas du cynisme, c'est de la raison économique, enfin, le port de Bordeaux s'est mis à expédier à la traite des Noirs. Mais jusqu'alors, c'était un port qui était extrêmement faible en termes d'expédition négrière.
À partir de quelle année il a commencé à prendre
Justement, après la guerre de Sept Ans, à partir de 1763, et le port de Bordeaux a bénéficié de primes que le royaume accordait pour les expéditions négrières, et ensuite après la guerre d'indépendance américaine. Donc l'apogée du port de Bordeaux, c'est de 1783 à 1793, et l'élan des Bordelais a été coupé par la Révolution française, et l'abolition de l'esclavage, et comme on l'a dit dans la précédente émission, Bordeaux a poursuivi sa montée en avant, devenant le premier port négrier français entre 1802 et 1803.
Début du 19e siècle. Alors justement, voilà. Je reviens un petit peu en arrière. Comment situer Bordeaux par rapport aux autres ports négriers français et européens ? Côté français, je pense à Nantes, et puis pour la partie européenne, notamment Liverpool, hein, le plus grand port
Alors,
de la traite négrière.
L'ensemble de la traite française est inférieur au seul port de Liverpool, donc ça, c'est bien clair. En termes nationaux, Nantes est très loin devant les autres, hein, et Bordeaux arrive en deuxième position, avec 500 expéditions négrières entre le 18e et le 19e siècle. Mais ça le place quand même en deuxième position. 500 expéditions, si on considère qu'il y a 300 captifs par expédition, ça fait quand même 150 000 Africains qui ont été déportés du fait des expéditions négrières bordelaises. C'est pas rien.
Bien sûr.
Lors de la précédente émission, Éric Saugera, nous avons évoqué cette première place de Bordeaux au moment du consulat. Et finalement, les Bordelais s'intéressent de manière peut-être plus importante que les Nantais à la traite dans l'océan Indien, à la côte du Mozambique. Alors, vous nous avez décrit les éléments, les circuits très complexes qui étaient pratiqués. Est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur ces circuits ?
Alors, à partir donc de la guerre d'indépendance américaine, effectivement, il y a des expéditions qui vont vers les Mascareignes, l'île de France et l'île Bourbon. Alors, le navire part de Bordeaux, il double le cap de Bonne-Espérance, il vend aux colons de l'Île-de-France une cargaison, par exemple des outils, du matériel de construction, etc. Ensuite, il va en Inde, il peut aller en Inde chercher des indiennes sur la côte orientale de l'Inde. De là, il va sur la côte orientale, Zanzibar, Mozambique. Il fait une première cargaison de traite qu'il va vendre à l'Île-de-France. Il charge de la canne à sucre à la place des Noirs, il double le cap de la Bonne-Espérance, il remonte sur la côte occidentale de l'Afrique, il fait une deuxième opération de traite en Angole, côte d'Angole, très souvent, et les Noirs sont expédiés outre-Atlantique, aux Antilles, ou en Amérique centrale, ou du Sud ou du Nord. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 1794 et 1802, la traite des Noirs a continué dans l'océan Indien. Et les Bordelais avaient beaucoup de corsaires dans l'océan Indien. Donc, il y avait des relations déjà qui s'étaient faites entre Bordeaux et l'océan Indien au moment de la guerre de course des guerres révolutionnaires.
Écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Éric Saugerat. Éric Saugerat, j'aimerais revenir sur le livre que Bernard Michon a présenté en début d'émission, qui a été publié donc en 1995. Comment ce livre sur la traite négrière à Bordeaux a-t-il été accueilli à Bordeaux, justement ?
Par une grande surprise. Voilà, je me souviens que lorsqu'il est paru en 1995, je l'ai présenté au Salon du Livre de Bordeaux. Et les gens, en fait, la plupart des Bordelais ne savaient absolument pas que Bordeaux avait été un port négrier.
C'était un des premiers livres.
C'est le premier livre. Le premier livre qui a parlé du sujet. Ça ne veut pas dire que Bordeaux n'avait jamais été étudié, hein, mais il avait été étudié sous forme d'articles relativement confidentiels, destinés à des gens extrêmement éclairés sur le sujet. Mais le grand public n'avait pas vraiment connaissance du fait que Bordeaux a été un port négrier. Donc le livre a été réédité, comme on l'a dit tout à l'heure, à nombreuses reprises, parce qu'il y avait une lacune qu'il fallait véritablement combler.
Et comment ça a été accueilli par la presse, par le grand public ?
Écoutez, ça a été très bien accueilli. J'ai fait beaucoup de conférences à l'époque. Il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux. Je me souviens avoir fait l'ouverture du journal télévisé de France 3, Gironde à l'époque, au Salon du Livre. Ça avait été vraiment le livre événement de 1995. Et écoutez, depuis 25 ans quasiment qu'il est paru, je vais exagérer, mais pratiquement il n'y a pas une semaine où on m'en parle pas. Où un journaliste me téléphone, enfin, j'ai tout, ou un email, je suis contacté à propos de ce livre-là quasiment chaque semaine depuis plus de 20 ans.
Un ouvrage qui a vraiment démarré le travail de mémoire sur Bordeaux,
oui, absolument.
Qui est encore aujourd'hui une référence.
Oui.
Alors, la mémoire bordelaise a été peut-être un peu plus longue à se libérer, et on pense notamment au travail qui a été réalisé à Nantes, mais Nantes qui était le premier port d'armement de traite, hein, et on a vu que Bordeaux avait armé également à la traite, mais à des hauteurs moindres. Comment les choses ont évolué depuis ? Comment le travail de mémoire a évolué du côté de Bordeaux depuis 1995 ?
Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses très positives qui ont été faites, notamment au musée d'Aquitaine, qui est un grand musée français. Et la partie consacrée au XVIIIe siècle laissait vraiment très peu de place à la part de Bordeaux dans la traite et l'esclavage. Donc depuis, le musée a été réaménagé. De ce côté-là, comme il y a eu des gros progrès de fait. Mais la municipalité de Bordeaux a encore du mal, encore du mal. Alors, il y a eu, il y a quelques années, une cellule qui a été créée pour évoquer le sujet, mais qui a débouché sur une plaque, une simple plaque au bord de la Garonne, pour dire que Bordeaux a été un peu ennégrillé. Il y a le buste de Toussaint Louverture à Bordeaux, mais l'autre côté de la Garonne, où peu de monde va. Donc, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore comme une certaine réticence. Bordeaux, si vous voulez, c'est le port du vin. Voilà. Tout le monde connaît Bordeaux dans le monde. Donc, on aime que Bordeaux soit associé au vin, mais à la traite des Noirs et l'esclavage, beaucoup moins. Et ça reste encore un petit peu compliqué à Bordeaux.
Alors, en préparant cette émission, Éric Saugera, vous avez indiqué avoir été contacté récemment par des journalistes au sujet de polémiques actuelles sur les noms de rues. Et votre expertise hein, sur le champ bordelais vous indique hein, finalement comme un interlocuteur. Alors, que pensez-vous de cette volonté de militants associatifs de voir débaptiser des noms de rues qui auraient donc des noms de rues de personnages qui auraient participé à la traite des Noirs et à l'esclavage ?
Alors, écoutez, c'est une question qui peut se poser légitimement hein, de débaptiser des noms de rues portant des noms négriers. Le problème, c'est que la plupart des noms de rues qui sont ciblés ne correspondent à rien. Je vais vous donner simplement un exemple. Il y a un grand pont célèbre à Bordeaux qui s'appelle le pont de Pierre, construit en partie par Pierre Balgueris-Stutenberg. Et Balgueris-Stutenberg n'a jamais été un négrier. Donc il y a des associations qui veulent débaptiser, qui veulent enlever ce nom-là. Mais il a essayé de faire une expédition de traite en 1814 qui n'est jamais partie. Le baron Portal, ministre de la Marine, idem. Et quand bien même. Et quand bien même certains noms de rue porteraient des noms de négriers, il vaut mieux garder le nom de rue et puis mettre une plaque en dessous pour expliquer qui était le personnage.
Oui, voilà. Ça fait partie de la mémoire des villes.
Ça fait partie de la mémoire des villes, etc. Et ce que j'ai expliqué, c'est que, tout à l'heure on en parlait pour Nantes, c'est toute la ville de Bordeaux qui participe à la traite. Voilà, l'armateur, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a les capitaines, il y a les marins, il y a les commerçants, il y a les boutiques, il y a une foule de personnes. Et en fait, ce que je dis, c'est que c'est le port de Bordeaux qui devrait perdre son nom. C'est le port de Nantes qui devrait perdre son nom. Pas uniquement un armateur ou un capitaine.
Oui, il faut bien comprendre que c'est toute une économie et tout
exactement.
Un territoire qui est impliqué. Éric Saugera, merci d'avoir participé à ces émissions. Bernard Michon se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de journée à tous et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.